Nous vous invitons maintenant à suivre le journal de la mi-journée. Une présentation de Eda Lutin Diko. Eda, bonjour.
Bonjour Ghislain, bonjour à tous. Tout de suite les titres. Huitième jour aujourd'hui des pourparlers de Khartoum entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Les discussions reprennent ce jeudi sur les principales revendications des groupes armés. Alors que les négociations avancent lentement à Khartoum, ici à Bangui, la MINUSCA appelle les groupes armés à saisir cette occasion et à cesser les violences sur la population. Au sommaire également, occupation illégale des domaines de la mairie de Bangui dans le premier arrondissement. Une descente sur les lieux a été effectuée hier par une mission gouvernementale. En basketball, pour le compte de la quatrième journée du championnat aller de la Ligue de Bangui, un dernier match en retard oppose cet après-midi BAC à Zarasclo. Ouvrons ce journal avec la poursuite des travaux du dialogue entre le gouvernement et les groupes armés à Khartoum au Soudan. Les discussions sont dans l'impasse sur les points d'amnistie et de partage du pouvoir. Entre-temps, sur les autres points, des consensus auraient été trouvés à en croire des sources proches des négociations à huis clos. Le point avec notre envoyé spécial, Jidas Nabeza.
Jusqu'à mercredi soir, les deux parties n'ont pas pu dégager un consensus autour de l'amnistie et le partage du pouvoir réclamé par les groupes armés. Pour la première fois depuis le début des pourparlers, Noureddine Adam, le chef du FRC, a fait son apparition dans les discussions à huis clos. En tout, 7 points de revendication alimentent les échanges. En plus de l'amnistie et le partage du pouvoir, il y a aussi les questions du statut des leaders des groupes armés et certains de leurs proches collaborateurs, la transformation des groupes armés en unités mixtes de patrouille temporaire, ainsi que la nomination d'un chef du gouvernement issu des groupes armés. Selon Igor Ludovic Lamaka, porte-parole des groupes armés, des consensus ont été dégagés autour de certains points malgré les discussions houleuses.
La question d'amnistie et la formation d'un nouveau gouvernement de sortie de crise avec un nouveau Premier ministre. Donc sur cette question, je crois que M. Sergui, le facilitateur, nous a dit de laisser le temps. Il va appeler le chef d'État depuis Bangui pour avoir les impressions du président Touadéra sur cette question. Mais je crois qu'il y a déjà des avancées sur toutes ces questions. Et ce que nous recherchons aujourd'hui ici à Khartoum, c'est la paix pour que le peuple centrafricain retrouve totalement la paix sur tous les territoires nationaux.
Selon des indiscrétions, un comité aurait été mis en place pour discuter de la formule de l'amnistie réclamée par les chefs rebelles. Les travaux vont donc reprendre ce jeudi et c'est toujours à huis clos entre les deux parties sous l'égide de l'Union africaine appuyée par l'ONU. Ces négociations, faut-il le rappeler, se déroulent sans la participation des forces vives de la nation conviées dans la capitale soudanaise comme observateurs. Gildas Nabeza, Khartoum, Radio Ndekeluka.
Merci à vous, Gildas Nabeza.
Alors que les pourparlers se poursuivent à Khartoum, à Bangui, la MINUSCA appelle les groupes armés, les groupes plutôt, à l'arrêt des violences contre la population.
La mission onusienne leur demande d'arrêter les violences contre la population civile et de saisir l'occasion du dialogue de Khartoum qui se poursuit pour ramener la paix dans le pays. Appel lancé hier lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire à Bangui. Ceci en référence aux tueries de ces derniers jours à Ipi, dont la Waka, faisant 18 morts et 23 blessés. Ika Vigbetanou, porte-parole par intérim de la MINUSCA, dénonce et condamne ces actes au micro de Jean-Eude Bagali.
Naturellement, quand il y a ces attaques, on condamne avec des termes les plus fermes, parce que rien ne justifie à l'heure actuelle que des groupes armés, parce qu'ils détiennent des armes, s'attaquent à des populations civiles qui ne sont pas armées. C'est des populations civiles qui sont dans la vie quotidienne, qui vaquent à leurs occupations, et il n'y a rien qui justifie que ces populations soient attaquées par qui que ce soit. Mais naturellement, nous documentons aussi, nous avons des équipes de droits de l'homme sur le terrain qui sillonnent et qui documentent tous ces faits pour que justement, ces coupables puissent être traduits devant les tribunaux et pour qu'ils puissent répondre de leurs actes.
Cap sur Carnot dans la Mambérie Kadhi avec ce dysfonctionnement du système éducatif.
La récente crise dans le village Zaoro-Sangou en fait déserter les écoles. Les parents d'élèves déplorent aussi l'absence d'enseignants qualifiés. Une situation qui impacte négativement l'année académique en cours. Igor Djeskansenapaï de retour de Carnot nous fait le point.
La situation est presque généralisée dans la sous-préfecture de Carnot. Au lycée Faustin Marigot, par exemple, on note plus de 200 élèves pour seulement 8 professeurs non titulaires. Les établissements du fondamental 1 enregistrent un nombre pléthorique d'enseignants vacataires et maîtres parents. Cette situation handicape l'éducation des élèves. Les derniers événements du village Zaourou-Sangou ont fait fuir les élèves vers Carnot Centre. Athanas Barkana, maître parent à l'école Boikombo à 35 km de Carnot, Axegadi.
Les populations, ils ont tué les bœufs de ce pull. C'est pour cela qu'ils sont venus pour venger. C'est pour cela que tous les élèves et les parents, ils sont tous sortis. Donc actuellement, il n'y a pas de personne là-bas. C'est pour cela que nous, les enseignants, nous sommes sortis pour voir s'il y a la sécurité. Donc les élèves peuvent retourner. Donc nous aussi, nous irons pour enseigner.
Jean-Hubert Dolé, enseignant vacataire au lycée Faustin Marigot de Carnot, explique la situation de l'éducation dans cet établissement.
L'éducation au niveau de Carnot est en régression totale du fait que ceux qui enseignent les enfants, la plupart du temps, ne sont pas qualifiés. Des fois, ce n'est pas leur filière. Donc, ils sont obligés de faire des choses comme ça que vraiment les enfants n'arrivent pas à être à la hauteur de ce qu'ils devraient leur véhiculer comme enseignement.
Ils demandent aux autorités centrafricaines, notamment à l'inspection académique de l'Ouest basée à Boire, de tout mettre en œuvre afin de trouver une solution à cette préoccupation.
Toujours, on a fait recours à nos députés. Et les maires devront faire cet effort-là. Les responsables locaux ne font pas d'effort. Mais on a déjà bien situé au niveau de Bangui qui sont prêts à aider Carnot dans le sens de l'éducation. Mais là, c'est le problème au niveau de Carnot. Il y a des directeurs d'école, d'établissement qui veulent vraiment faire émerger l'enseignement au niveau de Carnot.
Le problème de l'éducation dans la sous-préfecture de Carnot impacte négativement le comportement de la majeure partie des jeunes de la localité. Cette situation est source de nombreux cas d'incivisme décriés par la population locale. Igor Djeskensenapa est de retour de Carnot, Radio Ndekeluka.
Nous sommes à Bangui, le secteur agricole en Centrafrique, renforcé par 21 jeunes entrepreneurs formés. Ingénieur national Kusalati Fangoya
Après 6 mois d'apprentissage, ils ont reçu hier leur certificat en présence du Premier ministre Mathieu Simplice-Sarrandi à Bangui. Ces nouveaux acteurs vont se lancer dans le secteur agricole pour pouvoir le booster. Sinclair Soké, l'un d'entre eux, se réjouit de cette formation au micro de Francis Claver-Cala.
Oui, surtout c'est la coopérative des jeunes entrepreneurs agricoles que nous tenons vraiment à aller de l'avant dans ce sens. Et nous voulons vraiment à ce que le projet soit réalisé. Nous souhaitons à ce que les jeunes qui sont derrière tournent vers ce projet, viennent nous accompagner dans la mission en Centrafrique pour que l'agriculture centrafricaine aille de l'avant. Moi, je tiens à vous avancer comme propos et je tiens à ce que les jeunes vraiment se ressaisissent car l'agriculture est un issue pour la vie des jeunes.
Ces jeunes entrepreneurs sont issus de la première promotion. Ils sont dotés d'un espace cultivable de 7 hectares à Yamboro 2 sur la route de Mbaïki. Leur formation a reçu un appui financier du gouvernement et de certains partenaires.
Parlons justement du secteur agricole. L'Organisation nationale des femmes de Boire, ONFR, éprouve de sérieuses difficultés pour réaliser ses activités faute d'outils adéquats et d'appui financier.
Le manque des moyens modernes constitue pour ces femmes un obstacles qui les empêchent de cultiver de grandes surfaces de champs et de fournir des produits agricoles et maraîchers en quantité suffisante. C'est au cours d'une réunion préparatoire à la 9e édition de la foire agricole de Boire qu'elles ont exprimé cette préoccupation. Correspondance de Firmé Yaïman.
Les femmes rurales de la Nana Mambéré, réunies samedi 26 janvier devant leur siège au quartier Cotonaf à Boire, ont présenté quelques difficultés auxquelles elles font face dans leurs travaux champêtres, apicoles, piscicoles et maraîchers. Caroline Imanza est membre du groupement amical. Pour cette dame, cultiver avec la houe est très fatigant et donne un faible résultat dans la productivité. Elle souhaite voir cette organisation être dotée des bœufs en vue d'une culture attelée. Hélène Bougoué est membre de l'Association des femmes chrétiennes catholiques. Elle sollicite de la part des ONG de la place un appui financier et matériel pour l'élevage des caprins. Bakari Koulsoumi, membre du groupement Allah Karim, souhaite quant à elle que l'organisation des femmes rurales puisse avoir accès à des appuis multiformes pouvant les aider à écouler sans difficulté leurs produits qui parfois restent dans des dépôts faute d'acheteurs. Malgré toutes ces difficultés énumérées, l'ONFR ne baisse pas les bras. Pour matérialiser sa volonté de persévérer dans la lutte pour la sécurité alimentaire, elle organise en partenariat avec l'Association des femmes chrétiennes catholiques une foire agricole, la 9e édition prévue pour les 15 et 16 février prochains à Boire et qui verra la participation d'au moins 120 groupements recensés dans les quatre coins de la Nana Mambéré. Firmé Yaïman à Boire, Radio Ndékélou.
L'info se poursuit sur Radio Ndékélouka. Les domaines réservés par la mairie de Bangui dans le premier arrondissement sont occupés illicitement.
Une mission gouvernementale a effectué une visite sur les lieux pour constater les faits afin que des mesures soient prises. C'était hier en présence des autorités municipales et de plusieurs organes de presse de la place. Le point avec Faustin Modessi Zengagba.
Cette visite d'expertise gouvernementale effectuée ce mercredi concernait les domaines de l'État occupés illicitement dans le premier arrondissement de Bangui. Les locataires utilisaient ces espaces libres et les ruelles, précisément dans les quartiers Bataillon 3 et 200 villas, pour leurs propres intérêts. Des restaurants-bars, kiosques, garages de nouvelles constructions et même des briqueteries jonchaient ces lieux au point de les obstruer. Les occupants illicites s'en expliquent.
Les gens ne sont pas raisonnables quand il pleut. Beaucoup de choses se passent dans ces endroits et nous avons pris tout notre temps pour l'arranger, alors que ce n'est pas notre travail.
Henri Wanze Lingisara, ministre de l'administration du territoire, précise les raisons de cette visite gouvernementale.
Grave dans le premier arrondissement est jonché des gargotes, des kiosques jusqu'au fin fond. Au niveau du stade, là encore, sur place, nous avons constaté que c'est l'ONASPOR qui a attribué ces parcelles au privé pour la construction des garages, des sièges des ONG aux 200 villas. Un passage a été obstrué depuis. L'État n'a pas intervenu. Ayant constaté, j'ai instruit au maire de Bangui d'amener les machines qu'il faut pour ouvrir cette voie afin de mettre la population à l'aise. Et je rendrai compte au conseil des ministres si le gouvernement pourrait apporter également son concours.
Pour Émile Raymond Grunakumbu, maire de la ville de Bangui, tout va rentrer dans l'ordre après cette visite.
Nous sommes avertis pour que désormais nous fassions notre travail. J'ai voulu prendre à témoin les ministres pour que j'ai les coudées franches pour commencer à refaire ce que j'ai fait, les démolissements. Et il n'y aura pas d'excuses. Même si c'est des textes qui sont autorisés par moi-même du fait de mes techniciens ou du fait des arrondissements, si ça ne respecte pas la réglementation, nous allons les démolir.
Une réunion avec les occupants illicites, convoquée par le maire, est prévue ce lundi prochain afin de trouver une solution à ce problème.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ndékélouka, mesdames et messieurs, restez branchés. Hors de nos frontières au Cameroun, l'opposant camerounais Maurice Komto a été interrogé par la police judiciaire hier.
Deux jours après son interpellation au domicile de l'un de ses soutiens à Douala, l'ancien candidat à la présidentielle est toujours détenu à Yaoundé. Les charges qui pèsent contre Maurice Komto sont lourdes. Rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, troubles à l'ordre public et insurrection. L'infraction la plus forte de toutes celles qui ont été présentées hier mercredi.
En République démocratique du Congo, l'alternance pour la République AR prend acte de l'investiture de Félix Tshisekedi comme nouveau président.
Ce groupement politique est pourtant proche de l'opposant Moïse Katumbi qui avait soutenu Martin Fayoulou à la présidentielle. Cette déclaration n'est pas banale. Elle est tout de même signée de Jean-Bertrand Ewanga qui a été très présent aux côtés de Martin Fayoulou pendant sa campagne. Sa coalition alternance pour la République reste l'une des principales composantes d'ensemble pour le changement, la plateforme de Moïse Katumbi, mais ce n'est pas la seule, la page sport.
Le sport basketball, on joue un dernier match en retard ce jour et d'art.
BAC va affronter Zarasklo pour le compte de la quatrième journée du championnat aller de la Ligue de Bangui. Hier, large victoire de BAC sur Beyafrika 91-30 et Plateau a légèrement dominé Tongolo 62-60.
Le président de la sélection AIPS Africa, Michel Obi, se dit satisfait de la participation des Africains à la première édition de l'AIPS Sport Media Award 2019.
Une satisfaction exprimée lors de la cérémonie de remise des prix la semaine passée dans un grand hôtel de Lausanne en Suisse. Au moins deux journalistes sportifs africains figuraient dans le top 10 de chaque catégorie. Une initiative de l'Association internationale de la presse sportive du monde. Michel Obi, président de la section AIPS Africa, interrogé par Bienvenue Bello.
Les journalistes sportifs doivent être fiers de leur travail et doivent aussi montrer ce qu'ils font à chaque moment. Personnellement, en tant que président de l'Afrique, je suis très content qu'il y avait des journalistes africains qui ont bien mérité leur présence, les top 10 de les awards dans toutes les catégories. Il y avait au moins deux Africains, ce qui est bon. En face de technologie, en face des challenges économiques, les journalistes africains se comportent d'une manière admirable. Il faut commencer à préparer pour Londres 2020. On a beaucoup de programmes pour cette année. Il y a notre congrès à Accra. Il y aura beaucoup de choses là-bas, beaucoup de présentations. Et pour un journaliste qui veut être au niveau de sa profession, il faut qu'il donne quelques temps pour notre programme.
Un seul journaliste africain avait gagné un prix spécial d'investigation lors de cette première édition 2019. Il s'agit du journaliste et avocat ghanéen Anas Aremeya. Anas qui travaille pour dénoncer les mauvaises pratiques et la corruption dans la société africaine. Il a saisi l'occasion pour encourager les journalistes sportifs à s'intéresser au journalisme d'investigation dans l'avenir.
Football international, la Côte d'Ivoire accepte le changement des dates et organisera la CAN 2023.
Les autorités ivoiriennes ont accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 plutôt qu'en 2021, suite à une entrevue entre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et Ahmad Selloui de la Confédération africaine de football, CAF. La CAN 2019 aura lieu en Égypte. Le Cameroun accueillera la phase finale en 2021. Fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez branchés pour la version en sango.